la conscience diasporique.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
L'écrivain nomade est là. Il a même réussi à stopper le train de son agenda volant pour s'arrêter 50 minutes en sol majeur. Kofi Kwaoulé, homme de théâtre, romancier, nouvelliste, se balade, la conscience diasporique sous la plume. Cet amoureux du verbe incarné nous dira en quoi ça consiste. Appartenant à la génération des auteurs post-indépendance, venu au théâtre par amour du cinéma, traduit et joué dans le monde entier, notre dramaturge est une sorte d'exception culturelle puisqu'il est quasiment le seul auteur ivoirien joué en dehors du continent. Au menu de notre partition, son jazz, son théâtre radical, et tout ça dans le cadre du cycle Kofi Kwaoulé au lavoir moderne parisien du 6 au 14 novembre et à l'occasion de son recueil Close-up, Arletty, Boxer qui vient de paraître aux éditions théâtrales. Tout va bien, Kofi Kwaoulé ?
Très bien, merci de votre invitation.
Je vous en prie, si je vous dis qu'on va commencer par une petite note ivoirienne, est-ce que vous avez une idée en tête ?
Une note ivoirienne, par rapport à la Côte d'Ivoire que j'ai connue, c'est peut-être un nez de pierre.
Des pierres sur RFI pour nous servir et peut-être nous réjouir, ivoirien ou pas d'ailleurs. Que vous rappelle ce morceau Réconciliation programmé pour en sol majeur, Kofi ?
Et d'abord, c'est la voix d'Amédée Pierre, dont je n'ai pas pu vraiment profiter quand j'étais en Côte d'Ivoire, puisque j'étais trop près. Il a fallu que je vienne en France, loin de mon pays, pour que ça fasse partie, quelque part, de la mosaïque d'éléments qui constituent ma Côte d'Ivoire.
C'est un grand classique. Hein,
voilà. Et puis, bon, c'est le titre aussi, Réconciliation, qui à l'époque se rapportait à la situation de la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et aujourd'hui, le mot réconciliation est d'actualité, comme s'il avait une espèce de fatalité du conflit pas ouvert, larvé.
À vous entendre, j'ai l'impression que le mot réconciliation, dont on nous rebat les oreilles, finalement, n'est pas un mot ivoirien.
Non. Voilà. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, ils en ont besoin, mais vraiment besoin, comme une espèce de truc politicien.
Alors, je sais que l'un des premiers souvenirs sonores de votre enfance, c'était le bruit de la locomotive.
Oui.
Vous habitiez près d'une gare routière, peut-être ?
Oui, quand j'étais petit à Beauville, Et le souvenir, c'est ce train qui était chargé aussi, dans mon imagination, de faits terribles, parce qu'on disait qu'on mettait les gens mauvais dans le train, ou les voleurs, les assassins, et que le train allait se perdre tout seul, tomber dans un ravin. Et je ne suis jamais allé au bout du chemin de fait, je ne pouvais pas, puisque ça allait jusqu'au Burkina Faso. Mais je pensais que c'était à 100 mètres la fin du train. Donc le train a nourri mon imagination, mon imaginaire aussi.
Mais il y a peut-être un lien entre ce train fantôme, baptisons-le comme ça, oui, et la petite musique d'une autre voix.
Je dis au général de Gaulle, vous avez toute la vénération que j'ai pour vous. Je suis prêt à sacrifier mes intérêts d'homme, ma liberté d'homme, mes biens d'homme, aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais en aucun cas, je n'accepterai pour quoi que ce soit et de qui que ce soit le sacrifice des intérêts de mon pays à l'intérêt des autres. Je viens vous dire que nous allons prendre notre indépendance en dehors de la communauté. Et je fixe les dates. Le général de Gaulle, avec cette générosité qui le caractérise, cette grande âme qui est la sienne, a dit, j'ai compris, vous devez le faire, comme les intérêts de votre pays le commandent. Et chaque fois, il me disait, mon cher président, il faut toujours savoir exister. Exister en tant qu'homme indépendant. Exister en tant que nation indépendante.
Et...
Ah, comme... Allons, enfants de la patrie.
On est déjà dans le grand théâtre. Hein. Je ne vous présente donc pas la voix du Bélier ou Fouet, de Boigny, le 7 août 1960, donc au moment de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous aviez 4 ans, hein, Kofi Kwaoulé, donc pas grand-chose, j'imagine, comme souvenir. Mais est-ce que ce mot d'indépendance a eu du sens pour vous ?
Mais c'est vrai que je n'ai pas connu effectivement la colonisation, donc je n'ai pas connu non plus l'indépendance. Parce que comme je n'ai pas été colonisé, mais je ne me suis pas senti colonisé, je ne me suis pas senti indépendant. Je pense que je suis né libre comme tous les autres. Et puis c'est à l'école que peu à peu j'ai découvert qu'il y a eu un moment qu'on appelle la colonisation et un autre moment qu'on appelle l'indépendance. Je crois que les Africains de ma génération, c'est ça qui les caractérise. Ils sont obligés d'intérioriser quelque chose qu'ils n'ont pas vécu.
Oui. En même temps, il y avait des oripeaux. Enfin, et lesquels de cette colonisation ? Parce que ne serait-ce qu'au niveau de la langue, il y avait quand même entre le baoulé que vous parliez à la maison sans doute et la présence du français, il y avait tout un monde.
Oui, mais comme je suis né dedans, j'avais l'impression que j'étais né dans une double culture. La culture de l'école, car le français c'était l'école, et puis la culture de la maison qui était le baoulé. Et cela ne m'a pas posé vraiment de problème. Peut-être ça a commencé à me poser des problèmes lorsque j'ai pensé que j'allais écrire. Et je crois que la question de la langue s'est posée, mais dans quelle langue j'allais écrire ? Puisque le baoulé, qui était ma langue natale, n'était pas écrite, et que le français, j'avais un sentiment, en tout cas d'ailleurs réel, que je ne le possédais pas suffisamment pour écrire dans cette langue. Est-ce que c'est légitime pour moi d'écrire en français ? Puisque je ne maîtrise pas, pour moi, un écrivain, c'était Senghor. On nous disait qu'il était grammairien, et il était agrégé, donc je m'attendais aussi à être agrégé pour m'autoriser à écrire. Et puis bon, un jour, je me suis jeté à l'eau.
Alors, le début de votre vie, vous l'avez dit, se passe à Abengourou, qu'on embrasse d'ailleurs, à 200 km d'Abidjan, et puis dans la capitale, où vous suivez une formation à l'Institut National des Arts. Parce qu'en fait, vous allez nous raconter, votre rêve premier, c'était de faire du cinéma. Mais il faut dire que les salles obscures, peut-être à Abengourou, je ne sais pas, ça vous connaissait.
Monsieur Mackay, comment pensez-vous que des militaires accepteront de s'acoquiner, de faire confiance à une bande de truands dehors la loi ?
Ce sont eux qu'il vous faut aujourd'hui. Et ne les sous-estimez pas, mon capitaine. Chacun d'eux vaut une bonne vingtaine de vos soldats. Suivez-moi. Voici d'abord Decker, mon bras droit. Sans bidon. Son jouet préféré, c'est la dynamite. Il en tire un parti extraordinaire. Confiez-lui quelques bâtons de dynamite et il vous fera sauter n'importe quoi. À condition que ce soit illégal, bien entendu.
C'est le gorille qui m'intrigue.
Regarde, c'est notre Hercule. Il est capable de briser un homme en deux rien qu'avec ses doigts. Et ça lui arrive pour un oui ou un non. Bled, lui, ne se sert jamais d'une arme à feu. Il a du sang de peau rouge et de mexicain. Il adore trancher. A même la viande crue. La viande humaine, naturellement.
Une belle collection de spécimens.
Mais ce petit jeune, que diable fait-il avec vous autres?
Il est très précieux. Ce jeune, comme vous dites, c'est le Kid. Un charmant compagnon, toujours de bonne humeur. Il n'a qu'un petit travers. Il adore tuer. C'est un tueur né.
Vous avez tout de suite 6-7 ans, Tuez-les tous.
Yeah,
à Western Spaghetti de 1968, j'imagine que vous connaissez les répliques et même peut-être les plans par cœur, Kofi Kwoule.
À l'époque, oui, mais maintenant, il y a tellement longtemps que j'ai même tout oublié. En attendant l'extrait, j'ai cru que c'était les 7 mercenaires. Mm-hmm. Mais c'était Tuez-les tous et revenez seuls. C'est au programme, au cinéma Marmis. Il y avait un seul cinéma à l'époque. Mm-hmm. Ça passait plus de 2 mois.
Ah oui, ça fait rêver. Hein.
Ah oui, c'était tout le temps bourré. Quoi.
Ouais, ouais. Voilà. Donc il y avait ça, il y avait les comédies égyptiennes,
voilà.
Il y avait le cinéma Bollywood aussi,
c'est ça,
etc.
Voilà.
C'est là que votre désir de cinéma commence à naître.
C'est exactement là. C'est-à-dire que je voulais faire comme ce que je voyais à l'écran. Je voulais faire comme ça, simplement. Ce n'était pas une idée réfléchie, c'était une espèce de rêve de gosse, quoi.
D'ensorcellement, comme ça.
Exactement. Hein. Je voulais faire du cinéma, sans savoir trop comment ça se faisait, d'ailleurs.
Sauf qu'il n'y a pas d'école de cinéma en Côte d'Ivoire, donc ce sera le théâtre.
Si, il y avait une école, à l'INA, il y avait une école, il y avait une section de cinéma, ouais. Et je me suis présenté dans l'espoir de présenter le concours de cinéma. Sauf qu'à l'époque, quand je suis arrivé, on venait de supprimer la section, parce qu'on s'est rendu compte que le cinéma est un art un peu particulier, qui a besoin de moyens financiers, matériels, et que peut-être la Côte d'Ivoire n'était pas armée pour supporter une industrie cinématographique. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tu vas faire du théâtre. Et j'ai découvert en faisant du théâtre que finalement, c'est ce que je voulais faire. Parce que le théâtre est un art qui repose sur du vivant. Il faut quelques personnes, des amis, et on se réunit, on peut faire du théâtre. Mmh. Voilà.
Alors, vous écrivez votre premier texte à 18 ans, vous vous souvenez sur quoi ?
C'était Le Grand Serpent. La structure, c'est un conte adapté au théâtre. Et Le Grand Serpent, c'est l'histoire d'un dictateur qui est né infirme et qui a été rejeté, qui devient dictateur par la suite. Et que finalement, le peuple décide de s'en débarrasser.
Et c'est un texte qui a été censuré ?
Oui, ça a été censuré dès la première représentation.
Par qui ?
À l'époque, c'était Oufoué qui était président encore. Donc, ça date. Et voilà, j'ai été convoqué après au ministère de la Culture, à l'époque où Dadier était...
Bernard Dadier.
On était ministre de la Culture. On m'a demandé pourquoi j'avais écrit, blablabla.
Donc, c'est Bernard Dadier lui-même, le grand auteur
qui
a fait de la prison quasiment lui-même, sous tous les régimes
politiques. Exactement,
C'était votre censeur.
Voilà. Puis bon, voilà, je suis revenu précipitamment à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais à Paris.
Oui, vous arrivez donc en 79 en France et vous entrez à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Paris. Parallèlement, vous faites la Sorbonne Nouvelle.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas en France, Kofi Kwoule ?
Mes premiers pas, c'est étrange, mais surtout à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, je ne savais pas que j'étais encore à Paris. Et à un moment, j'ai demandé au chauffeur qui nous conduisait de l'aéroport, j'ai dit, mais quand est-ce qu'on arrive à Paris ? Il m'a dit, mais on est à Paris depuis longtemps, on traverse Paris. Donc ça a été un choc, ça a été cela de ne pas reconnaître le Paris que j'avais imaginé.
Et quel Paris vous aviez imaginé ?
Je pensais que Paris, c'était New York, parce que Abidjan, c'est une ville, le plateau, c'est des buildings. Et je pensais que Paris, en tant que grande ville, belle ville, puisque moi, la beauté, une belle ville, c'était une ville avec des gratte-ciels.
Mmh.
Donc je pensais en trouver plein à Paris. Et puis bon, c'est après que j'ai découvert la beauté de Paris. Mais sur le coup, pendant 6 mois, je n'avais qu'une hâte, retourner chez moi, quoi.
Alors, le futur dramaturge que vous allez être, Kofi Kwoule, se décrit comme un mauvais francophone à l'époque, et vous n'avez en poche que 2 grandes références, mais lesquelles ? Amadou Kourouma d'un côté, Bernard-Marie Koltès de l'autre.
J'ai le sentiment que les expériences que je vis et les gens que je côtoie, à partir du moment où je les écris, je les mets à mort, en quelque sorte. Quand je vis des expériences et quand je rencontre des gens, je sais que un jour ou l'autre, je vais m'en servir pour les écrire, si je peux dire, et qu'à partir de ce moment-là, je ferai une œuvre de mort vis-à-vis de cette expérience vécue et vis-à-vis de ces gens que j'ai rencontrés. Non pas que j'éprouve un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça, mais disons que j'éprouve une certaine difficulté à doser l'existence d'une part et à lui garder son indépendance par rapport à l'écriture, et d'un autre côté, à continuer à écrire.
Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès se passe donc en Afrique sur un chantier de travaux publics d'une riche entreprise occidentale où un ouvrier noir est assassiné. Et puis un soir, son frère vient réclamer le corps. Et dans la scène qui suit, Horn, le chef de chantier, et Cal, qui est un jeune ingénieur, montent la garde en jouant au dé et en buvant. Et Cal semble accorder plus d'importance à son chien qu'à l'ouvrier noir.
Toubab, je l'entends. Il traîne près de l'égout. Qu'il y tombe, je bougerai pas. Saloperie. Il traîne et quand je l'appelle, il répond pas. Il fait celui qui réfléchit. C'est lui ? Oui. Réfléchis, vieux cabot, je n'irai pas trop pêcher. Il a dû sentir l'odeur d'une bête inconnue qui se débrouille. Il devrait pas tomber et s'il tombe, je bouge pas. Le gars, Horn, je peux te dire, c'était même pas un vrai ouvrier. Un simple journalier. Personne ne le connaît, personne n'en parlera. Alors il veut partir. Moi, je dis, non, tu partiras pas. Quitter le chantier une heure avant, c'est important, une heure. Si on laisse prendre une heure, il y a l'exemple que cela fait. Comme je te le dis, je dis donc, non. Alors il me crache au pied et il part. Il m'a craché au pied et à 2 centimètres, c'était sur la chaussure. Donc j'appelle les autres gars, je leur dis, vous le voyez, le gars ? Oui, patron, on le voit. Il traverse le chantier sans attendre l'arrêt. Oui, patron, sans attendre l'arrêt. Sans casque. Les gars, est-ce qu'il a un casque ? Non, patron, on voit bien, il porte pas de casque. Moi, je dis, souvenez-vous-en, il est bien parti sans que je l'autorise. Oui, patron, oh oui, patron, sans que tu l'autorises. Alors, il est tombé. Le camion arrivait et je demande encore, mais qui conduit le camion ? Mais à quelle vitesse il fonce ? Il a pas vu le nègre ? Et alors, hop !
Quand j'entends pour un sol majeur la petite musique de Bernard-Marie Coltès, je peux penser un peu à l'écriture et à la petite musique de Kofi Kwaoulé. En quoi il a été important ou peut-être une inspiration pour vous ?
En fait, je ne peux pas dire qu'il y a eu une inspiration. C'est-à-dire que lorsque mes textes ont commencé à circuler, les gens me disaient « mais il y a quelque chose de coltésien ». Effectivement, je n'avais pas lu Coltès. Donc je me suis dit, écoute, tu vas essayer de lire c'est quand même ce type Coltès pour savoir ce qu'on te reproche. Ah oui, parce que souvent ça a double sens, quoi. Et puis j'ai découvert là une écriture fabuleuse. Et j'ai eu même un peu honte qu'on compare ce que je faisais à ça. Et effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a des affinités. Parce que c'est...
Lesquelles ?
C'est... Peut-être une certaine, comme vous disiez tout à l'heure, une certaine musique. Mais en même temps, lorsqu'on gratte un peu dans la vie de Coltès, on se rend compte que on a vécu pratiquement la même chose. Coltès était très attiré par l'Afrique, était même aimanté par l'Afrique. Moi, je viens d'Afrique. Il était fasciné aussi par les États-Unis, par le cinéma hollywoodien. Ce sont des éléments qui m'ont structuré aussi. Les auteurs qu'il a lus, Dostoïevski, Faulkner. Et je me suis rendu compte que, même sans se connaître, on avait bu aux mêmes sources.
Oui, vous étiez des frères d'armes.
C'est ça. Et d'une certaine manière, ça n'a pas surpris qu'on soit dans le même tempo du monde. Parce que c'est une façon de respirer le théâtre. Coltès s'est réintroduit dans le théâtre français, je crois, la notion de personnage qu'on effaçait. Et mon théâtre, j'ai l'impression que c'est aussi un théâtre d'histoire et de personnages au sens le plus classique du terme.
Alors j'imagine que comme pour les grands peintres, il y a des périodes aussi dans l'écriture d'un dramaturge tel que vous. Dans une première vie, on va dire, vous avez fait apparaître de temps à autre cette Afrique dans vos pièces. Et je pense notamment à la pièce « Il nous faut l'Amérique », que j'ai vue d'ailleurs, qui était jouée sous l'avion désaffecté d'Oufoué de Boigny, au moment où Sidi Kibakaba dirigeait le Palais de la Culture à Abidjan, incroyable. Donc avec un trio de paumés, redites-nous l'argument rapidement de cette pièce.
Mais ce sont des espèces de clochards qui vivent là et qui tuent le temps à bavarder, à se chamailler. Et puis un jour, la femme découvre qu'elle pisse du pétrole. Et là, leur vie va changer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette manne ? Effectivement, ils réussissent à devenir très très riches. Ils côtoient tous les grands du monde. Jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, la femme découvre qu'elle ne pisse plus du pétrole. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire de cette femme qui ne pisse plus du pétrole ? Voilà, ce sont ces questions-là.
On est déjà un peu dans le théâtre de l'absurde. Là.
Oui, oui, donc ils décident tous les trois d'aller en Amérique. Mm. Donc le titre « Ils font en Amérique », ce n'est pas non plus un appel à l'Amérique, c'est simplement des personnages qui décident d'aller en Amérique parce que là-bas, le rêve est beaucoup plus fou.
Alors, peut-être que « Il nous faut l'Amérique » se passe en Côte d'Ivoire. Oui. On peut imaginer qu'en toile de fond, il y a éventuellement la crise ivoirienne
bien sûr, oui.
qui arrive, mais on a l'impression que vous êtes déjà sur le départ, que déjà vous êtes... en partance par rapport à cette Afrique, et vous me parliez de cette vieille magie noire que vous avez écrite en 93, l'histoire de Shorty, qui était un boxeur connu mondialement pour son jeu de jambes aussi sensuel que la voix d'une Billie Holiday, et ses coups de poing aussi violents que la trompette de Dizzy Gillespie. Donc là, on a toujours les références musicales afro-américaines. Mais vous dites, avec cette pièce, j'ai compris que je devenais européen.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que j'étais encore un Ivoirien africain ? Oui, je l'étais. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire s'éloignait de moi, ou moi, je m'éloignais de la Côte d'Ivoire, et je ne parvenais pas non plus à me sentir français ou européen. Et c'est dans cet espace, ce hiatus, que se pose « Il nous faut l'Amérique ». Mais je ne pouvais pas écrire non plus une pièce sur cette espèce de conscience diasporique que je connaissais par rapport à la France, puisqu'il est très difficile de parler de certaines questions, surtout les questions touchant la négrophobie, en France. Du coup, j'ai déplacé la question aux États-Unis, parce que je n'avais jamais mis les pieds aux États-Unis lorsque j'ai écrit cette vieille magie noire. Mmh. Et c'était aussi une façon de rappeler l'expérience africaine-américaine, qui est pour moi une belle entrée pour comprendre l'histoire de la communauté noire dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi cette communauté-là. Parler de sa condition, et c'était aussi parler de la condition de n'importe quel noir dans le monde.
Containment, where reform and discipline are labeled enslavement. From rites of passage to stacking the raiments, we're sporting the iron bars, just gracing the pavement. It's just like cavemen from the pages of myth, cohabitating in darkness while we wallow in filth. Generations of jewels will trickle down to abyss as blood stains these prisons like the pyramid glyphs. Guilty or innocent, agents of government treat our hoods like picking ground. Schools are tenement, all sagging uniform as thugs. They represent racial stereotypes. A profile for the oppressed. When you witness genocide every day, you get the hint that the ghettos are cold like a lab experiment. As young women and men street hustle before they tend, graduating from juvenile halls and up the river to the... Play generation next. The house of regret locks down our street vets. Regroup and repent. We lost sight of our mission. With honor we ride for justice. We must remain out the... We trade wisdom for green. Trade life for wealth. Fools wait for lockdown to find the knowledge of self. I bang hard on the left and never fiend for cream. If you borrow, you owe it. If you take it, you know you're going to the prison. The penalty for criminal states. If you're herb or bird, man, you study running from jakes. I circle with street soldiers that build and plant states. Through the land from Babylon, my skills educate. And these united snakes, there stands no debate. The constriction of law makes us communists of hate. New world, a new focus. The streets need to deal with new purpose. The eldership is lacking. The suckers of misguidance is deep. In prison state of mind, I had you dead in the street. Yelling P-I-M-P in your stress. Fake player cars to rest. Tell youth to stay in school, research and manifest. Slave ways from the whip to the gaze. From streets to the cage, we stand just hook and dagger. And 12 heads decide if you keep your street swagger. Hope you between bars, this crazy world gets fatter. I'm a key fucking lesson, wise don't the mad hatter. Rock a honk up my dog, cause I deal with life matters. It's strange in the sight of my people and what's sadder. Devil's pie and put our heads in the batter.
peu de trompette à la Christian Scott et de hip-hop de Brooklyn avec X-Clan. Pourquoi Prison Coffee? Qu'est-ce qu'il vous rappelle ce morceau?
C'est la rencontre entre le jazz, je dirais, classique et le rap, le hip-hop, qui est aussi du jazz. Parce que très souvent, les gens font des distinctions entre hip-hop et R&B. Pour moi, tout cela, c'est du jazz. Ce sont des variations sur la même musique noire africaine-américaine. Pour moi, Christian Scott fait la même chose que Michael Jackson, mais de manière différente. Oui. C'est toujours la même musique.
Alors, je me disais que cette musique-là était idéale pour accueillir vos personnages qui appartiennent à un recueil qui vient de paraître aux éditions théâtrales. Mm-hmm. Le recueil Close Up Arletty Boxer. Boxer. En exergue d'ailleurs de Close Up, je pense, vous avez mis cette phrase de Samuel Beckett qui dit « Se tailler un royaume au milieu de la merde universelle, puis chier dessus.
Oui, oui, je crois que ça répond un peu à ce qui se passe dans la pièce Close Up. Ouais. C'est quelqu'un qui est un tueur en série et qui n'a pas de raison d'en vouloir à qui que ce soit, simplement ça lui plaît. De tuer, voilà.
Il a une phrase leitmotiv, j'arme, je vise et je tire.
Oui, ça, c'est une espèce de psychopathe. L'enjeu pour moi, c'est lorsque, même si je devais écrire Hitler, je m'arrangerais pour qu'on l'aime. Et l'enjeu, c'est comment prendre un tueur en série et faire en sorte, pas qu'on l'aime, mais qu'on le trouve magnétique.
Alors, vous dites tueur en série, c'est marrant, c'est pas exactement l'image qui m'était venue immédiatement, vous amusez déjà. Voilà, parce que ce personnage, évidemment, est obnubilé par le corps, notamment celui des infirmières qui sont nues sous leur blouse, dit-on, ou encore le corps des 70 vierges. Censé vous attendre au paradis si vous avez tué le nombre qu'il faut, voilà. Ou encore la figure de la mère, enceinte ou en putain. Pour moi, c'était plutôt le portrait robot de l'extrémiste religieux, vous voyez.
Ah oui, mais c'est perdu comme ça, tout à fait. Parce que même si c'est moi qui ai écrit, je ne suis pas propriétaire du sens.
Oui, mais les motivations d'un tueur en série ou d'un extrémiste religieux ne sont pas exactement les mêmes.
Je ne sais pas. Moi, ce qui me fascine, ce ne sont pas les extrémistes religieux, ce sont les tueurs en série. C'est vrai que ce sont une catégorie de personnes qui me fascinent.
Pourquoi ?
Mais parce que ils sont dans une espèce de folie normale. Parce que ce qui fait le tueur en série, c'est quelqu'un qui passe partout. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est un tueur en série. C'est cette apparente normalité qui me fascine et qui me trouble.
La banalité du mal, aurait dit Hannah Arendt.
C'est cette espèce de banalité, surtout pour Ézéchiel, parce que la plupart des tueurs en série, non pas les tueurs en série, c'est les tueurs de masse qui ont des raisons, qu'ils croient objectives de tuer. Alors un tueur en série, il ne sait même pas pourquoi il tue, mais en le psychanalysant, on comprend pourquoi il tue. Et je crois que les raisons pour lesquelles Ézéchiel tue, même s'il dit qu'il le tue par plaisir, il ne tue pas par plaisir, il tue par souffrance. Quelle est la souffrance, quelle est l'urgence qui pousse ces types à tuer des personnes innocentes?
Kofi Kwaoulé, faites-nous voir comment il parle, ce personnage.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je croyais qu'Ézéchiel avait réussi à fermer la gueule de la bête en moi. Que mon âme s'était enfin rendue à la raison du monde. Mais dès que dans cette supérette, j'étais vu, entendu dire à la caissière qui n'en croyait ni ses oreilles ni ses yeux. Oui, je suis bien la fille d'eux. J'ai senti mon sang en moi bouillir, enfler, prêt à jaillir de mes narines, de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, gicler de mon sexe, mon sang. Je ne sais pas pourquoi ça me fait encore cet effet-là, les filles d'eux.
Et oui, car dans vos didascalies, Kofi Kwaoulé, de Close Up, vous donnez comme indication un cœur d'enfant. C'est ce qui doit accompagner là, ce Miserere mei Deus, cette partie de pièce de théâtre. Et puis avec cette référence, les noms des personnages ne sont jamais choisis au hasard. Cette référence à Ézéchiel, qui est un prophète dans l'Ancien Testament.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire dans mon travail, Ézéchiel revient souvent comme le prophète de l'Ancien Testament, celui qui est enterré en Mésopotamie, en Irak. Ça tombe encore là. Et puis, il y a l'autre Ézéchiel, qui est l'ange déchu. Dans Close-Up, c'est l'ange déchu. Ils ont formé un groupe avec Lucifer, Belzébuth, pour faire une espèce de coup d'État contre Dieu. Et Dieu les a découvert le coup d'État et les a chassés du paradis. Et il doit faire du bien pour retourner. Ézéchiel, chaque fois qu'il a entrepris une action qu'il croit bonne, ça se transforme en mal. Il y a comme une espèce de fatalité. Son destin, c'est d'être cloué au sol. Et c'est l'Ézéchiel de Close-Up.
Oui, j'y vois un malin plaisir, hein, si vous me permettez l'expression, justement. C'est jouissif pour vous de créer ce genre de personnage diabolique?
Oui, c'est le seul qui me remue le sang, en fait. Mais Ézéchiel, comme vous disiez, je pense très, très justement, est aussi un extrémiste religieux. Je n'y avais pas pensé. Mais je pense que c'est une lecture très, très juste. J'aime les personnages qui vont au bout, que ce soit dans le bien ou dans le mal, qui entreprennent une action et qui vont jusqu'au bout. J'aime leur radicalité. Voilà.
Alors, l'écriture elle-même, on n'a pas le temps d'y rentrer, mais pour moi, bon, je le vis, alors je le traverse comme un monologue intérieur qui fait avancer la narration et la dramaturgie, mais avec toujours la sensation de lire en même temps une sorte de poème. Alors, dans Close-Up, donc, il y a ce personnage marginal et extrême, mais dans votre recueil, il y a un autre personnage qui a une voix reconnaissable entre toutes.
D'abord, je vous dirais que je l'ai rencontré très tard, je ne voulais pas le connaître. Oui, Céline, je ne voulais pas, je n'ai pas la curiosité. Bon, c'était un choc dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, l'histoire de voyage au bout de la nuit. Oui, et surtout, quand on pense qu'il avait comme supporter Trotsky et Léon Daudet. Donc c'est une gageure, hein. Les deux types opposés. Je me suis trouvée trois ou quatre fois à Barbizon, il était en résidence surveillée, Trotsky, et je demandais à ce qu'on me mette à côté de lui, parce qu'il déjeunait, alors j'aimais bien être le voir, le regarder, quoi. Il était seul en général, et alors je m'amusais, on parlait, et une espèce de bagout devait l'amuser, parce qu'il riait à tous les trucs, il parlait l'argot même. Eh bien, alors ce type qui a eu Léon Daudet, déjà, hein, Léon Daudet et Trotsky comme supporter, hein, c'était déjà pas mal. Hein. Ça allait avec le voyage, ça.
Ah, comme atmosphère.
Une certaine gouaille, évidemment, une gueule d'atmosphère qui vient d'entrer dans le studio d'un sol majeur avec ce document qui date de 1982 au micro de Marc Laudeloup pour accueillir votre Arletty théâtrale à vous, Kofi Kouaoulé. Mais qu'est-ce que vous ressentez comme ça, immédiatement, quand vous entendez la voix de cette Arletty parlant de Céline?
Ben, une grande émotion, parce que chaque fois que j'entends la voix d'Arletty, c'est cette espèce de détachement. Même dans sa voix, on a l'impression que les choses qui lui tiennent à cœur, elle peut en parler avec légèreté et détachement. C'est ça qui me fascine chez elle. J'ai vu un entretien d'elle, c'est ce qui m'a décidé à écrire en fait sur elle. Elle était âgée déjà. Et c'est surtout, il y a des personnages comme ça qu'on croit connaître. Et dans cet entretien, j'ai découvert quelqu'un de profondément humble. Ce qu'on ne croit pas d'Arletty, on pense que ce sont ces timides ou ces humbles qui se cachent derrière la gouaille. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, comme Sidiki Bakaba, qui passe pour quelqu'un de très excentrique, mais qui est profondément, profondément humble et timide. Et Arletty fait partie de ces personnes qui donnent une image. Et cette image ne correspond pas à ce qu'elles sont profondément.
Et vous vous êtes attaqué à justement l'envers de cette image.
C'est ça.
Dans la création et la mise en scène que donne Christian Frédéric, donc en ce moment au Lavoir moderne parisien, le spectacle commence avec la vraie voix d'Arletty. On l'entend dire « Faut me pardonner, je ne suis pas comme vous rêvez », quelque chose comme ça. Elle raconte Ménilmontant, elle raconte sa carrière pendant les années de guerre. Et puis elle raconte surtout toute sa vibration amoureuse pour l'officier allemand Söring, donc qui était un proche de Göring, c'est-à-dire un des grands dirigeants nazis. Est-ce que ça, c'était le nœud de l'affaire pour vous, Kofi Kouaoulé?
Oui, c'est le nœud. Cet amour montre à quel point cette femme était libre. Parce que la liberté est un risque. Elle a pris ce risque jusqu'au bout. elle va jusqu'au bout de cet amour, je dirais, sacrilège, puisqu'on est en guerre et que l'autre, c'est l'ennemi, l'ennemi nazi. Et pourtant, elle va accepter. Enfin, elle ne va pas accepter. Elle ne choisit pas de l'aimer. Elle aime, puisqu'on ne choisit pas d'aimer. Cela nous tombe dessus comme une grâce. Elle a reçu cette grâce d'aimer, sauf que la personne qu'elle aime, c'est un nazi. Et c'est ça qui me fascinait.
C'est alors que la rumeur est sortie de l'hypogée de l'inquisiteur, pour se répandre dans tout Paris, traverser coteaux de vignes et plaines emblavées, jusqu'aux chaumières de toute la nation, Carletti a répliqué avec l'insolence qu'on lui connaît qu'elle ne répondrait plus à ces sortes de questions, les questions de dessous la ceinture de l'inquisiteur. Que s'il est vrai que son cœur était français, son cul, lui, était au monde entier. La rumeur a rapporté que l'inquisiteur a claqué des doigts et qu'aussitôt, quatre jeunes hommes portant brassard se sont saisis d'Arletti, lui ont arraché habits, soutien-gorge et culottes, l'ont plaqué et maintenu face contre terre, ouverte. Dit la rumeur, tenace, et que l'inquisiteur a puni Arletti durement, histoire de lui apprendre que comme son cœur, son cul aussi appartient à la nation.
Le cœur et le cul d'Arletti, incarné au théâtre par Julia Leblanc-Lacoste. Donc cet Arletti qui est une vraie leçon de liberté très complexe, où l'intime le dispute au collectif. Et là, Kofi Kwaoulé, vous avez travaillé à partir d'un personnage qui a existé, qui a parlé, qui a été jugé à la Libération pour cette collaboration horizontale, comme on disait à l'époque. Comment vous avez procédé et avec quelle intention d'auteur derrière ?
Lorsque j'aborde ce type de personnage, parce que j'ai déjà travaillé sur Basquiat, le peintre Basquiat, sur Fela, ce n'est pas le biopic qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est Arletti comme poème possible. Ces personnages, n'importe quelle personne de toute façon, mais là, ce sont des personnes connues, en quoi nous sommes d'abord un poème. C'est le poème de la personne qui m'intéresse.
Ouais. Je n'ai pas oublié ce que vous disiez au début de cette ensemble majeure, que vous avez commencé votre carrière d'auteur francophone en vous demandant si vous étiez légitime, puisque vous n'étiez pas un agrégé comme Senghor à l'époque, etc. Qu'est-ce qu'il en est de votre écriture aujourd'hui ? Comment vous la désirez, cette écriture ?
En fait, je me sens de moins en moins légitime. J'ai l'impression que le travail d'écriture est une espèce d'imposture.
Qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce grand doute qui vous habite ?
Non, parce
que... Une question de foi, peut-être ?
Oui, j'ai l'impression que, par rapport à ce que je fais, l'effort que je déploie pour écrire, ce n'est pas suffisant pour l'intérêt que les gens semblent lui accorder.
J'entends dire que vous avez une écriture de blanc. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
C'est bien possible.
Qu'est-ce que ça veut dire, une écriture
j'en
de blanc ?
J'en sais rien. Disons que je n'ai pas une écriture qu'on attendrait d'un Africain. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un Africain ? Parce que ça pose la question de la rencontre avec l'autre. Si on rencontre l'autre juste pour que l'autre nous conforte dans l'idée qu'on se fait de lui, ce n'est pas une rencontre. Voilà pourquoi ce que je fais est toujours un rendez-vous ailleurs. Et comme ce n'est pas l'Afrique qu'on attend, on se dit c'est blanc. Je me rappelle que pendant longtemps, en France, on disait c'était américain ce que je faisais. Et quand je suis allé en Amérique, on m'a dit, mais ce que tu fais, très européen. Ouais. Donc,
vous avez une conscience diasporique qui prend des allures de poème dans votre écriture.
C'est ça, exactement. Donc, si on ne se retrouve pas, on pense que c'est l'autre. Sauf qu'on ne pense pas que cet autre, c'est peut-être là aussi l'Afrique. Mais ce n'est pas l'Afrique telle qu'on l'imagine. Parce qu'on a souvent tendance à imaginer l'Afrique dans sa manifestation passée. Et dès l'instant où il n'y a pas cette manifestation, on s'est dit non, ce n'est pas l'Afrique, c'est forcément européen. Mais c'est tout cela à la fois, parce que je suis structuré à la fois par les États-Unis, par l'Europe et par l'Afrique.
Votre écriture est un jeu de dupes, un peu.
On peut dire ça, oui.
comme enfant de cœur.
Le jazz, forcément, dans votre ensemble majeur, Kofi Kwaoulé, mais là aussi, il y a 1000 jazz. Pourquoi celui de John Coltrane ?
Mais je crois que c'est Coltrane, je disais tout à l'heure que je ne me sentais pas légitime pour écrire, et c'est Coltrane qui, quelque part, en l'écoutant, qui m'a dit « oui, tu peux écrire ». Parce que ce que je voulais exprimer, je l'ai entendu chez lui. Pourtant, je ne suis pas entré.
Qu'est-ce que vous entendez chez Coltrane ?
Ça m'a foutu un coup de pied au cul. Et je me suis dit, mais c'est cette émotion-là que je veux transmettre. Et lui, il le faisait. Donc
c'est une émotion quoi ? Sombre ?
C'est de la liberté et c'est une émotion qui est de l'ordre de l'élévation. Ces morceaux sont construits comme une prière. Il y a toujours de l'élévation. Oui, j'ai eu l'impression qu'il faisait en musique ce que je n'ai jamais osé écrire. Et je pense que la musique de Coltrane a changé complètement mon rapport à l'écriture.
Et alors que vous définiriez comment, du coup ? Comment il guide votre écriture, Coltrane ?
Mais ce que j'aime dans ce type d'écriture, que ce soit musicale, picturale ou littéraire, c'est l'absence de causalité entre les moments. Je ne cherche pas à travailler sur la mélodie, mais sur une harmonie d'ensemble. Et quels sont les éléments que je vais réunir pour créer cette harmonie sans me préoccuper d'une mélodie, quelle qu'elle soit. Avec Coltrane, je me suis dit oui, c'est possible de le faire et c'est normal de le faire. Mmh. C'est-à-dire sortir des effets de causalité.
Vous avez prononcé le mot d'élévation à l'instant. Est-ce que vous avez toujours un côté enfant de cœur, vous diriez ?
Oui, je suis resté un enfant de cœur parce que j'ai commencé l'école chez les prêtres, même si aujourd'hui mes rapports avec Dieu sont très tendus.
Ah oui ?
Oui, voilà. Mais,
ça veut dire quoi ?
Mais disons que Dieu tel que me l'avaient enseigné les prêtres, ce n'est plus ce Dieu-là qui me guide. Parce que Dieu tel que je le conçois n'est pas au passé. C'est quelque chose qui devient. C'est le devenir qui est Dieu. Mmh. C'est ce que je fais avec les autres, ensemble, pour rendre ce monde meilleur. C'est cette action-là qui est Dieu. Voilà pourquoi l'idée que je me fais de Dieu est toujours dans l'action, dans le devenir. Et je lis beaucoup la Bible, c'est le livre que je lis le plus, même si je ne suis pas en accord avec la conception de Dieu qui est. Cela ne veut pas dire que la mienne est mieux. Simplement, la mienne me permet de toujours chercher.
Vous êtes auteur, et puis il y a une dimension poétique dans la Bible aussi.
Pour moi, c'est probablement le plus grand livre littéraire, parce que c'est une bibliothèque. Et chaque fois que j'ai une panne d'inspiration, il me suffit de lire la Bible et je trouve la solution.
À bon entendeur. Donc, dans votre inventaire, on aurait pu mettre un peu de, je ne sais pas comment on aurait fait, mais de silence en montagne, mm-hmm. ça vous parle. Un peu de Billie Holiday aussi, de cinéma de Quentin Tarantino, on l'aura compris avec Close Up tout à l'heure. Mm-hmm. Et puis une langue, celle-ci. Yes, alors, que ressent le petit Kofi ? Je suis sûre que vous avez rapetissé, là, en écoutant Alla Thérèse et en voyant sa coiffure Akoru Kofié, c'est-à-dire en forme d'araignée.
Oui, oui, mais c'est pas tellement Alla Thérèse bon, que j'admire. Pour moi, c'est notre Edith Piaf, pour les baoulés. Mais c'est la langue baoulée que, comme je n'ai plus l'occasion de la pratiquer, je comprends. Mais je n'ai pas l'occasion de la pratiquer, donc forcément je la parle de moins en moins bien. Et moins je la parle, mieux cette langue est présente en moi. C'est un peu comme le français que j'ai parlé sans émotion et que maintenant je parle avec beaucoup d'émotion.
Il y a une bascule qui s'est faite.
C'est ça. Je me rappelle une fois, j'étais à Prague, dans la rue, et j'ai entendu des gens parler baoulé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que des baoulés viennent faire ici ? Je me suis retourné. Non, c'était un couple de touristes français qui parlaient français. C'est-à-dire comment l'émotion que j'ai à entendre le baoulé s'est glissée aussi dans le français. C'est-à-dire le français aujourd'hui produit la même émotion que le baoulé.
Qui est l'autre pour vous aujourd'hui ?
D'une certaine manière, je suis devenu l'autre de moi-même.
Oui, c'est ça.
C'est l'autre de moi-même.
J'allais vous demander où en êtes-vous de cette conscience diasporique, c'est-à-dire dans quel moment de nomadisme êtes-vous aujourd'hui, Kofi Kwaoulé ? Ce sera notre dernière question en sol majeur.
Moi, je suis quelqu'un d'apaisé. Parce que il n'y a pas de français. C'est pour ça que je parlais du baoulé du français aujourd'hui. Tout cela s'est fondu en moi. Tout cela me constitue. Il n'y a pas de fragmentation. C'est un bloc. Je me sens vraiment apaisé par rapport à ces questions identitaires, parce que, comme je le disais par rapport à l'idée de Dieu, je suis inscrit dans le devenir. Je deviens. Je ne sais pas ce que serai demain. Peut-être que demain, ce sera la rencontre avec le Chinois, ou le Finnois, ou le Portugais, j'en sais rien. Mais j'essaie de me tenir disponible au vent du monde.
Merci beaucoup, Kofi Kwaoulé.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le cycle Kofi Kwaoulé, donc au Lavoir moderne parisien jusqu'au 14 novembre, et puis ensuite au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine du 23 au 27 novembre. Donc en France pour le moment, joué aux États-Unis, oui. Vous êtes joué dans le monde.
Oui.
Eh oui, légitimement, avec toute la légitimité qui vous revient, non ?
Oui, j'en suis très très flatté, heureux, parce que finalement, c'est pour cela que j'écris. Je n'écris pas pour que ce soit une affaire ivoirienne, une affaire africaine. Les Africains jouent bien les autres textes. Comment placer son œuvre dans un espace où tout le monde peut venir puiser. Je pense que si on peut définir ce que j'écris, c'est comment j'essaie de placer mon œuvre à cet endroit-là où tout le monde peut venir se mirer. Ça fait un peu narcissique, mais y trouver son compte. Yes,
En sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou encore derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Samar Yazbek. À la semaine prochaine.
Tout à l'heure sur